franceinter.fr.
Avec Hélène Jouan, bonjour Hélène.
Bonjour Pierre.
On commence par l'évocation d'un souvenir d'un ami.
Elle apparaît toute frêle sur la photo. Blondeur de petite fille, le regard qui s'évade, perdu. Perdu parce qu'elle a perdu son homme, Bernard Maris, notre Bernard Maris aussi à nous, à France Inter. Hélène Fresnel était sa dernière compagne et Libération nous propose un portrait sensible de cette jeune femme, journaliste, qui a consacré un documentaire à son amoureux, à la recherche de Bernard Maris, qui sera diffusé le 4 janvier sur Public Sénat et sur France 3. Elle nous installe côté cuisine et nous sert du café dans des mugs Charlie Hebdo. Ça ne vous dérange pas, elle demande. Va pour la tasse de Bernard. Il ne lui reste plus que ça à Hélène Fresnel, de la douceur, que ça en devient frappant. À l'écouter, on comprend vite, écrit la journaliste Cécile Walter, on comprend vite qu'une balle dans la tempe n'a pas suffi à arrêter les idées de son homme. Quant à la mort, elle est bien peu de chose à côté des sentiments de ceux qui restent et attendent dans le vide. Récit d'une idylle qui naît après des vies déjà bien remplies, portrait en creux à travers elle de celui qu'elle appelait son professeur ou encore Bernardo. Bernardo et ses questions. Et blondette, lui demandait-il, qui suis-je socialement? Économiste? Je n'aime pas. Écrivain? Je voudrais, raconte-t-elle. Récit d'un amour qui ne s'éteint pas malgré la mort, et c'est peut-être ce fil invisible qui relie ceux qui ont été assassinés le 7 janvier dernier à Charlie Hebdo, avoir été aimé et avoir aimé si fort. Ça saute aux yeux en tout cas quand on lit également le témoignage de Maryse Wolinski dans Les Inrocks ou dans Le Point qui font le compte-rendu du livre qu'elle consacre à celui qui fut son amoureux pendant 47 ans. « Chérie, je vais à Charlie », titre de l'ouvrage à paraître le 7 janvier. Dernier mot aussi qu'il lui a dit en partant ce funeste 7 janvier 2015. Douleur, interrogation, colère parfois, mais surtout élan d'amour qui ne se tarit pas pour Maryse, pas plus que pour Hélène. Presque un an, jour pour jour, après cette terrible tuerie, c'est assez joli de ne retenir que l'amour.
Après l'amour, la paix, Hélène Jouan, dans la presse
oui,
également ce matin.
L'espoir de paix, en tout cas en Centrafrique, où a lieu aujourd'hui le scrutin pour élire un président et des députés après 2 ans de guerre civile. Avec un nouveau maître, s'il est bien, tout ira mieux, on pourra rentrer chez nous, veulent croire dans le Figaro. Jean-Pierre et Georgette, deux fervents chrétiens chassés de leur quartier en décembre 2013 par les musulmans de la coalition rebelle Séléka et qui vivent depuis dans un camp de réfugiés. « Je vais voter pour la paix », dit pareillement à leur côté leur frère d'infortune Alexis, qui lui est musulman et qui lui a fui la milice chrétienne des anti-Balaka. Calme ambiant, espoir commun, mais c'est la dernière chance, note un responsable des Nations Unies, car en cas d'échec, donné à la Centrafrique qu'un président légitime est accepté par tous, s'il y a effectivement échec, eh bien la guerre repartira pour des années. Dans Libération, Patricia Huon relève que le vrai risque surviendra après l'annonce des résultats. Le climat est toujours volatile et le désarmement n'a pas eu lieu, note un spécialiste. Pour l'instant, chacun est persuadé que son candidat va l'emporter, mais après, quel que soit le vainqueur du scrutin, en tout cas, les défis seront immenses pour ce pays exsangue.
Retour en France avec toujours le débat sur la déchéance de nationalité.
Et parole de binationaux dans la presse ce matin, parole contrastée dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, de ces Français qui ont un double passeport. « Je rêve et je prie en français », confie Laure, une franco-togolaise. « Les gens concernés par cette éventuelle mesure ne me ressemblent pas. Elle ne se sentirait donc pas le moins du monde déclassée si la Constitution devait être modifiée en ce sens. » Eddy, franco-tunisien, se dit lui stressé, déstabilisé par cette annonce. « Et si le FN arrivait au pouvoir », craint-il. Il faut faire confiance aux institutions françaises, lui rétorque sa femme à ses côtés. Non, ça va créer des amalgames, dit-il. On en souffre déjà tellement, nous, les Maghrébins, conclut-il. Et à la question soulevée depuis l'annonce de cette initiative présidentielle, au fait, pourquoi? À quoi ça sert? Eh bien, on peut trouver la réponse de Rice dans son édito de Charlie Hebdo ce matin. La déchéance de nationalité, écrit-il, c'est l'écartèlement de Damien des temps modernes. Et de rappeler l'histoire de ce Damien qui eut la mauvaise idée de vouloir donner quelques coups de canif à Louis XIV et qui, pour prix de son crime, fut d'abord condamné à mort, mais ça ne suffisait pas. Il fut aussi torturé en long, en large et en travers, écartelé par 4 chevaux sur la place de Grève. Dans les deux cas, d'Iris, il s'agit de trouver une réponse à la hauteur du symbole attaqué. Supplice public hier donc, déchéance de la nationalité aujourd'hui, cette sanction à caractère hautement symbolique, comme le revendique Manuel Valls. L'application de la loi ne suffit plus, il faut recourir à des émotions, des sentiments pourtant mis de côté par le droit moderne, regrette Rice. En cela, dit-il, la déchéance de nationalité est une régression. En attendant, outé, Kamba, outé ! Entonne Libération sur l'air de Stromae pour se demander où est passé le numéro 1 du Parti Socialiste depuis le début de la polémique le 23 décembre. Au fil des commentaires, constate Rachid Laïrèche, les mots durs et les fractures se multiplient au sein du PS et de la gauche en général, sous le regard perdu des militants qui auraient bien besoin de quelques repères. Jean-Christophe Cambadélis doit prendre la parole et vite, dit le journaliste. Sinon, au moment de sortir de sa cachette et d'ouvrir le son, il se retrouvera face à un champ de ruines. Pas question de chercher Manuel Valls, en tout cas, en première ligne depuis plusieurs jours pour défendre la mesure. Il est présent dans la presse ce matin pour faire montre de fermeté sur un tout autre sujet, la Corse. Guet-apens contre les pompiers, soi-disant représailles racistes et anti-musulmanes, ces actes indignes meurtrissent la République, condamne le Premier ministre, qui réfute par ailleurs tout procès en laxisme en Corse. Non, dit-il, la Corse n'est pas une zone de non-droit et l'État ne reculera jamais. Il en profite par ailleurs pour lancer un petit message aux nouveaux dirigeants nationalistes et autonomistes de l'île, premier du genre d'ailleurs, depuis leur victoire. Il n'y a qu'une seule nation, assène-t-il, la nation française. Qu'une langue officielle, le français. C'est pourtant bien en Corse que les deux dirigeants ont fait leur discours d'investiture au lendemain des régionales. Il n'existe pas de prisonniers politiques en France, rappelle-t-il également à ceux qui pourtant ont publiquement fait de ce sujet un objet de discussion avec le pouvoir exécutif.
Et on termine, Hélène, avec un titre.
Fuck, Pierre, pour le plaisir, fuck.
Dingue.
Ouais, à la une de Libération qui décidément est le meilleur journal pour enterrer les morts. Hommage à Lemmy Kilmister, l'emblématique leader de Motorhead, chapeau vissé sur le crâne, lunettes noires et téton arrogant. Et cette question posée par David Carzon dans son édito, difficile de définir ce qui fait qu'on bascule de bouseux à icône. Libé, qui est un peu méchamment pour le coup, fait le parallèle avec notre Johnny Hallyday national, ou binational puisqu'il est né belge. Libé qui parle de trajectoire inverse entre Lemmy, devenu un mythe, et Johnny, qui lui a connu le succès très vite et qui ne cesse de courir depuis derrière la consécration perpétuelle. À chacun ses icônes.